Partie 3. Comment ça marche? Science, technique et vie quotidienne. Dans cette partie, la science a longtemps été perçue comme un progrès historique et sans fin des sociétés humaines. Deux guerres mondiales plus tard, avec une planète consciente des problèmes d'épuisement des ressources et livrée à la pollution, notre vision est devenue beaucoup plus réaliste. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, affirme Rabelais dans Pantagruel. Cet adage est devenu le nôtre et la recherche scientifique s'honore par ses prolongements dans des comités d'éthique de plus en plus nombreux. C'est donc l'esprit libre et fier que nous allons mettre nos pas dans ceux des grands scientifiques, de Pasteur à Pierre et Marie Curie, vivre l'exaltation des grandes premières, des vaccins, du radium. L'exploration hardie conduit de science en science à se pencher sur l'épaule des prix Nobel, du microscope à l'économie. Puis, retour à la vie quotidienne, aux inventions dont nous ne saurions nous passer, du téléphone ou de la télévision. Vous savez tout, croyez-vous? Il reste pourtant un mystère qui nous colle à la peau, le plus proche et le plus incroyable de tous, le corps humain. Quelle complexité, quelle ingéniosité pour cette merveilleuse machine à vivre et, de notre part, quelle ingratitude. Nous ne nous souvenons de lui qu'à l'apparition de la première douleur. De l'infiniment grand des chercheurs de l'espace sans frontières à la plus microscopique cellule de notre être, une même pulsation nous appelle. Vite, une blouse blanche pour tout le monde, les portes des laboratoires vous sont grandes ouvertes. Entrez, ne soyez pas intimidés, la science vous tend les bras. Chapitre 9. Des hommes d'expérience, la science. Dans ce chapitre, la science à travers les âges, les principales sciences et leurs domaines d'application, les grands chercheurs, quelques chiffres clés. Mais la science, ce sont avant tout les sciences. Comprendre à la fois comment elles sont structurées, l'organisation des connaissances propres à chacune d'entre elles et plus encore les scientifiques. Qui sont ces hommes et femmes qui dans tous les domaines ont permis des avancées fulgurantes? Mieux connaître Laennec, Pasteur, Pierre et Marie Curie, Darwin est un privilège, des rencontres à ne pas manquer. La science, c'est également l'occasion d'un émerveillement devant l'alchimie qui nous promet la recette de l'or, ou le radium et ses promesses dans la lutte contre le cancer. Ce tour d'horizon se conclura sur les réalisations permises par les progrès scientifiques, défis techniques et exploits dans la maîtrise de la nature. Ainsi la boucle est bouclée, de l'idée géniale née dans le cerveau d'un savant à sa concrétisation dans la vie quotidienne. Les grandes découvertes scientifiques. À la différence de l'invention qui donne naissance à quelque chose qui n'existait pas auparavant, la découverte consiste à faire connaître un objet ou un phénomène caché, ignoré, mais qui existe déjà cependant. Ainsi, quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, il le fait pour les Européens qui ignoraient l'existence de ce continent. Toutefois, il existait déjà avec sa flore, sa faune, ses civilisations propres. Il en va de même pour Pierre et Marie Curie et la radioactivité. Cette dernière préexiste, mais le couple de savants la met en évidence, la découvre. Il faut donc appréhender ici le terme « découverte » dans son autre sens. Est découvert ce qui était caché, est révélé ce qui était recouvert d'un voile. Pour ce faire, il faut attendre la naissance de la science moderne. Le temps de Copernic, premier maillon d'une chaîne de savants illustres ou inconnus, ayant contribué à améliorer notre compréhension du monde et des phénomènes naturels au fil du temps. Les principales sciences et leur domaine d'application. La science, du latin scientia, savoir, a pour but la connaissance aussi exacte que possible du monde qui nous entoure. Ce savoir doit présenter certaines caractéristiques, être universel, vérifiable, reposer sur des théories ou lois, être établi à partir d'une méthode scientifique reconnue et être diffusé. Toute connaissance scientifique est donc liée à un lieu et une époque. Elle est dès son origine destinée à être réfutée, soit parce qu'elle est erronée, soit parce qu'elle sera complétée, voire remplacée par une autre plus aboutie. En fonction de l'objet propre à chacune des principales sciences, le philosophe allemand Rudolf Carnap, 1891-1970, a effectué un classement. Il distingue les sciences pures ou formelles, reposant sur un mécanisme de déduction et qui ne se propose pas comme finalité immédiate une utilité concrète, mathématiques, logiques, les sciences appliquées, qui reposent sur l'observation et ont un but précis d'ordre pratique. Elles sont elles-mêmes subdivisées en deux branches. Les sciences naturelles, qui étudient la nature par une démarche fondée sur l'expérimentation, le recours à des instruments de mesure afin de vérifier ou d'invalider une théorie, physique, chimie, biologie, géologie. Les sciences humaines, également appelées sciences sociales, qui se fixent pour but l'étude des sociétés humaines sous toutes leurs formes, en s'appuyant chacune sur une démarche originale, histoire, géographie, sociologie, psychologie, etc. Les sciences pures. Elles se composent essentiellement de deux branches. Les mathématiques, ou l'application théorique et pratique de la géométrie, de l'algèbre et de l'arithmétique. La logique, ou l'exactitude des raisonnements mathématiques appliqués aux ordinateurs. Les mathématiques. Mathématiques vient du grec mathéma, science. Par définition, le mathématicien est avant tout le praticien de la science reine, celle qui sert par sa méthode de modèle aux autres sciences exactes. Il s'agit de démontrer, en suivant des lois logiques, la validité d'une théorie. Lorsque le mathématicien y parvient, il énonce le résultat sous la forme d'un théorème. Conventionnellement, on distingue trois branches dans les mathématiques. L'algèbre, appelé arithmétique quand il s'agit d'algèbre élémentaire, abstrait, il étudie la quantité sous forme de calcul. La géométrie, elle permet de comprendre la nature des figures dans un espace, il s'agit alors des mathématiques concrètes. L'analyse, fondée sur les nombres réels, c'est-à-dire tous les nombres positifs, négatifs ou nuls, qui permettent de mesurer des longueurs ou des grandeurs physiques.
Un peu de technique. Le compte est bon. À l'origine, algèbre est un mot arabe qui appartient au vocabulaire médical. Al-jabr signifie en effet réduire, mais une fracture. Le premier à l'utiliser au sens mathématique est le persan Al-Khwarizmi, 780-850, dans son traité Kirab al-Muqtazar fi Izab al-Jabr wal-Mukabala, traduit en latin par Girard de Crémone, 1114-1187, sous le titre de Traité de l'algèbre et des algorithmes. Pour le mathématicien persan, le sens littéral d'algèbre, hors de toute médecine, peut se traduire par remise en place. L'équation d'algèbre permet de remettre en place, c'est-à-dire de rendre, par simplification successive, sa valeur véritable à chaque membre. Al-Khwarizmi est également connu pour être l'intermédiaire par lequel le système de calcul indien est passé en Occident. C'est l'objet de son autre ouvrage, le Kitab al-Jami wa al-Tafriq bi Hisab al-Hind, ou Livre de l'addition et de la soustraction d'après le calcul des Indiens.
La logique. Comme toutes les autres sciences, la logique est au moment de son apparition l'une des catégories de la philosophie. Son étymologie vient du mot grec logos, le discours rationnel. Il faut attendre le XIXe siècle pour qu'elle prenne son indépendance en tant que branche des mathématiques. La logique repose sur l'étude de la validité des raisonnements. Son but est de chercher à savoir s'ils sont applicables ou non. Elle recourt pour ce faire à des théories utilisées comme des instruments pratiques. Parmi ces théories, on trouve la théorie des ensembles, définie comme une réunion d'objets appelés « éléments de cet ensemble ». Il y a aussi la théorie des modèles, dont l'utilité est de valider un résultat mathématique qui est considéré comme vrai, valable, si on peut trouver le domaine auquel il s'applique. La théorie de la preuve, quant à elle, sert à prouver que la démonstration en mathématiques répond à une cohérence interne, dépend d'une organisation rigoureuse des éléments pris en considération. Enfin, la théorie de la calculabilité est un aspect indispensable à la logique, puisque son but est de définir si le résultat final d'un calcul est conforme ou non à la norme fixée.
Un peu de technique, en toute logique. C'est dans son ouvrage intitulé « Première analytique » que le philosophe Aristote formule un exercice de logique, le syllogisme, destiné à faire des délices de toutes les générations d'étudiants depuis. Il s'agit d'un raisonnement fondé sur trois termes ou propositions. La prémisse majeure, la prémisse mineure et la conclusion. En principe, si les prémisses majeures et mineures sont bien posées, la conclusion du syllogisme est impossible à réfuter. Il est, de ce fait, souhaitable que l'ordre en soit respecté. Majeur d'abord, puis mineur, et enfin conclusion. Par exemple, tous les hommes sont mortels est la prémisse majeure. Or, je suis un homme est la prémisse mineure. Amène à la conclusion, donc je suis mortel. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'un exercice dépourvu de sens, d'une sorte de pur jeu de l'esprit sans signification. Par le syllogisme, Aristote est le premier à étudier l'ordre de la pensée indépendamment de son contenu, selon sa seule forme, et en ce sens, il est le fondateur de la logique formelle.
Les sciences appliquées. Deux d'entre elles, les sciences statistiques et informatiques, se rattachent étroitement aux mathématiques, mais par leur finalité pratique ne sont pas des sciences pures. Les statistiques. Leur but est de produire des informations à partir de données qui ont été collectées, traitées puis analysées. Elles ne sont donc pas un but en elles-mêmes, mais l'un des supports utilisés pour concourir à nourrir les connaissances d'autres sciences. Ainsi, en histoire, des séries statistiques de prix à la consommation pour un lieu et une époque donnée permettent d'avoir un élément d'appréciation du niveau de vie des populations considérées. L'informatique. C'est une science de l'information au même titre, mais il s'agit de traiter cette dernière par un système établi au préalable. Ce système est constitué d'un certain nombre de programmes, utilisables en fonction du type de recherche d'information à effectuer. Certains très connus, comme les moteurs de recherche, renvoient à partir d'un mot ou d'un groupe de mots, par exemple, à des programmes, les contenant. Certains très connus, comme les moteurs de recherche, renvoient à partir d'un mot ou d'un groupe de mots, par exemple, à des programmes les contenant. Les sciences naturelles. Regroupées en fonction de leur domaine d'application spécifique, les sciences naturelles rassemblent les sciences de la vie, sciences de la terre et sciences physiques. Les sciences de la vie. Prenant pour objet d'étude toutes les formes de vie, de la simple cellule aux organismes complexes et à diverses étapes de développement, les sciences de la vie permettent de distinguer l'agronomie, pratique de l'agriculture, l'anatomie, structure, forme et organisation du corps, la bactériologie, développement et comportement des bactéries, la biologie, origine, morphologie et environnement des plantes et des animaux, la botanique, végétaux, la cytologie, structure, fonction et vie des cellules, l'écologie, relations entre les êtres vivants et leur environnement, la médecine, cause, prévention et guérison des maladies, la nutrition, équilibre quantitatif et qualitatif de l'alimentation, la pharmacologie, élaboration, utilisation et effet des médicaments, la physiologie, fonction des organes et tissus des êtres vivants, la zoologie, animaux. Il serait impossible de consacrer ici une analyse étendue à chacune des branches des sciences de la vie. Nous avons donc choisi celle qui nous concerne tous, la médecine, pour une approche plus scientifique. On peut considérer que la médecine moderne naît entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. Depuis cette époque, les progrès sont réguliers et jalonnent l'histoire de la médecine.
N'oubliez pas, je jure par Apollon. Père grec de la médecine, Hippocrate, qui vécut autour du IVe siècle avant Jésus-Christ, est le premier à la dégager, par l'observation et le questionnement du patient, des rites magiques. Il considère la maladie comme un déséquilibre des humeurs du corps et de l'âme, que le médecin doit tenter de restaurer par son action. En France et dans de nombreux pays, le tout nouveau médecin doit prononcer, avant d'être autorisé à exercer, le fameux serment qui porte son nom. « Je jure par Apollon médecin, par Esculape, Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, et je les prends à témoin que, dans toute la mesure de mes forces et de mes connaissances, je respecterai le serment et l'engagement écrit suivant. Je conseillerai aux malades le régime de vie capable de les soulager, et j'écarterai d'eux tout ce qui peut leur être contraire ou nuisible. Jamais je ne remettrai du poison, même si on me le demande. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans la pureté et le respect des lois. Dans toute maison où je serai appelé, je n'entrerai que pour le bien des malades. Je m'interdirai d'être volontairement une cause de tort ou de corruption. Tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi, dans l'exercice de mon art ou hors de mon ministère et qui ne devra pas être divulgué, je le tairai et le considérerai comme un secret. Si je respecte mon serment sans jamais l'enfreindre, puissais-je jouir de la vie et de ma profession et être honoré à jamais parmi les hommes. Mais si je le viole et deviens parjure, qu'un sort contraire m'arrive.
C'est en 1628 que William Harvey, 1578-1657, médecin du roi d'Angleterre Charles Ier, découvre le mécanisme de la circulation sanguine et publie un ouvrage sur ce sujet. Richard Lower, 1631-1691, prouve que la couleur rouge du sang provient de son oxygénation dans les poumons. En 1796, Edward Jenner, 1749-1823, découvre le moyen d'immuniser l'homme contre la variole par inoculation de la vaccine, virus bénin qui protège de la variole. Il avait remarqué que les paysannes qui traient les vaches aux mains couvertes de pustules dues à la variole n'en mouraient pas. Avant lui, la vaccination est connue, mais à partir d'une inoculation d'un individu infecté, non de la vaccine récoltée sur le pis de vache. Le stéthoscope est à l'origine un simple cornet de papier enroulé, destiné à l'auscultation des bruits à travers les parois du corps. Il est perfectionné en 1816 par René Laennec, 1781-1826, médecin à l'hôpital Necker. Ses expérimentations lui permettent en 1819 de publier le premier traité véritable de pratique clinique, Traité de l'auscultation médiate ou Traité des maladies du poumon et du cœur fondé principalement sur ce nouveau mode d'exploration.
Le saviez-vous ? Dites 33. En visite chez une jeune femme malade, Laennec a l'idée de prendre un cahier, de le rouler et de l'appliquer sur sa poitrine, cependant qu'il colle l'autre extrémité sur son oreille. Il se rend compte alors qu'il peut entendre distinctement les battements de son cœur. Nous sommes en 1816. Dès l'année suivante, Laennec perfectionne le système par un rouleau plus long et plus épais, formé de 3 cahiers. Apercevant un jour un hautbois abandonné, il le scie et en récupère un tronçon qui, travaillé, sera le premier véritable stéthoscope, nom donné à l'instrument par Laennec lui-même en 1818. Grâce à lui, le médecin peut désormais entendre les battements cardiaques, mais il peut écouter dans la poitrine l'air inspiré et expiré, les râles éventuels. Par une cruelle ironie du sort, Laennec, qui a tant contribué par son invention à la lutte contre les maladies de l'appareil respiratoire, meurt d'une tuberculose à l'âge de 45 ans.
L'anesthésie naît en 1844 lorsqu'un dentiste américain a l'idée d'endormir ses patients en utilisant du protoxyde d'azote ou gaz hilarant, mais des effets souvent contraires obligent le praticien à recourir comme auparavant à des solutions à base d'opium. Il faut attendre 1847 pour qu'une autre substance, le chloroforme, soit utilisée pour pratiquer une anesthésie. Louis Pasteur, 1822-1895, se passionne depuis 1857 pour la fermentation. Il comprend que les bactéries sont responsables de la détérioration des aliments et invente la pasteurisation, procédé qui consiste à les détruire en les portant à une haute température, même quelques secondes. En 1879, Pasteur découvre que les cultures vieillies du microbe du choléra injectées à des poules ne provoquent plus la maladie. Il vient de découvrir le vaccin. À partir de 1880, le savant se tourne vers l'étude de la rage. Le 6 juin 1885, Marie-Angélique Meister conduit à Pasteur son fils Joseph, mordu par un chien enragé. Reprenant le principe testé avec le choléra, Pasteur le vaccine et lui sauve la vie. Commence alors une campagne de vaccination à plus grande échelle. Au 1er mars 1886, 350 personnes ont été vaccinées et une seule est morte de la rage. L'Institut Pasteur est fondé en 1888 et dirigé par son fondateur jusqu'à sa disparition en 1895. Médecin allemand, Robert Koch, 1843-1910, identifie l'agent de la tuberculose et ses modes de transmission. Il l'annonce le 24 mars 1882 dans une communication faite à la Société de physiologie de Berlin. À la suite de cette découverte, l'agent transmetteur de la tuberculose est baptisé bacille de Koch. Cependant, Koch ne trouve pas le vaccin contre la tuberculose. Il faut pour cela attendre les résultats des travaux d'Albert Calmette, 1863-1933, et Camille Guérin, 1872-1951, qui mettent au point le BCG. Vaccin bilier Calmette-Guérin. Devenu célèbre, Robert Koch reçoit en 1905 le prix Nobel de médecine. Scientifique allemand, Wilhelm Conrad Röntgen, 1845-1923, met en évidence les rayons qu'il nommera rayons X au cours d'une expérience menée dans la soirée du 8 novembre 1895. Il utilise pour ce faire un tube cathodique, c'est-à-dire un tube en verre qui émet un rayonnement bleuté, car il est parcouru par un faisceau électrique. Röntgen enveloppe le tube cathodique d'un papier noir opaque et place à 2 mètres un écran en carton recouvert d'un produit fluorescent. Quand le courant est activé dans le tube, une lueur verdâtre, la fluorescence, apparaît sur le carton. Des rayons invisibles traversent donc l'enveloppe noire du tube et viennent agir sur le produit déposé sur le carton. En plaçant sa main entre le tube et l'écran de carton, Röntgen envoie le squelette projeté sur l'écran. Les rayons X sont nés. Biologiste américain d'origine autrichienne, Karl Landsteiner, 1868-1943, découvre les groupes sanguins entre 1901 et 1903. Ces travaux vont rendre possible la transfusion sanguine. Cette dernière est connue et pratiquée depuis longtemps, puisqu'au milieu du XVIIe siècle, le médecin britannique Richard Lower, 1631-1691, transfère le sang des veines d'un chien dans les veines d'un autre chien. Mais très souvent, le patient mourait de façon inexpliquée car le sang transfusé coagulait. Karl Landsteiner, constatant que parfois le sang coagule et parfois non, prélève des échantillons sur ses collègues de travail et essaie différents mélanges. Il découvre qu'il existe des groupes sanguins différents, qu'il appelle A, B, O. L'année suivante, il en identifie un quatrième, le groupe AB. Ces observations permettent à Karl Landsteiner d'établir une méthode de transfusion sanguine sûre. Par la suite, intrigué par des rejets, Karl Landsteiner met en évidence le facteur Rh ou rhésus. Il s'agit d'un sous-groupe qui caractérise les groupes sanguins dus à la présence rhésus positif ou Rh+, ou à l'absence rhésus négatif ou Rh- d'un antigène à la surface des globules rouges. Il en déduit la règle. Un individu Rh+ peut recevoir des globules Rh-. Un individu Rh+ peut recevoir des globules Rh+. Un individu Rh- ne peut recevoir des globules Rh+. Son organisme les identifie aussitôt comme étrangers et fabrique dans les 72 heures des anticorps afin de les détruire.